Hangi Mlamoud Bet. Sur les premières lignes où c'est large. Vous êtes avec moi, première ligne où c'est large? Va'afalpi shegzerat navi chozeret. Yuma Hangi Mlamoud Bet. Va'afalpi shegzerat navi chozeret. Gzerat umim vetumim eno chozeret. Nous avons ici deux sortes de Ruach HaKodesh. Un Ruach HaKodesh qui traverse le Navi. Un autre Ruach HaKodesh qui traverse le Oum Betoumim. Et il y a une différence entre les deux. Le Navi, quand il annonce un malheur, c'est pas obligé de se réaliser. On va Yonah HaNavi. Il est venu à Nineveh. Il a dit, dans 40 jours, la ville, elle sera détruite. Et 40 jours après, la ville n'était pas détruite. Parce qu'Hachem, il a annulé la Xéra, malgré qu'elle est sortie de la bouche du Navi. Et ça ne devient pas un Navi Sheker. Parce qu'une mauvaise nouvelle n'est jamais obligée de se réaliser. Et même si ça a été publié par le prophète. Hachem, il peut annuler la Xéra si jamais il y a des mérites. Les gens, ils ont fait Tchouba Nineveh, Hachem, il a annulé la Xéra. Et qu'est-ce qu'il se passe si la Ruach HaKodesh passe par le Urim Betumim? Si le roi, il demande, est-ce que je vais courir derrière ces troupes des ennemis? Est-ce que j'arriverai à les liquider? Et le Urim Betumim lui dit, oui, tu arrives, et bien il arrivera. Même si les ennemis feront Tchouba, eh bien, ça peut pas annuler la Xéra. Une Xéra qui est traversée par l'Urim Vetumim est obligée. Ça veut dire que l'assurance que ça va se réaliser est absolue. C'est un grand chidouche. C'est ça que la Gemara nous dit. Même la Xéra de Navi, Chozeret, elle peut revenir en arrière. Vous avez la deuxième ligne dans Rashi en haut. Que Gon. Yona, qui a promis la destruction de la ville. Mais Gzeirat Urim Vetumim Einachazerat, la Gzeira qui se trouve, la décision céleste qui se trouve dans Urim Vetumim Einachazerat, ça ne peut plus revenir en arrière. C'est obligé de se réaliser.
Mais pourquoi vous dites que c'est un chidouche? C'est pas un chidouche, c'est normal. C'est normal, Urim Vetumim, c'est direct avec le bon Dieu. Alors que la parole du prophète, ok, mais c'est pas là où Urim Vetumim, c'est vraiment leur fonction, c'est normal, c'est pas un chidouche.
Pourquoi c'est pas un chidouche?
Parce que
qu'est-ce qu'il est plus, qui est plus proche de Dieu, le Kohen Gadol avec ce Urim Vetumim ou le Navi?
Le Kohen Gadol avec le Urim Vetumim.
Pourquoi? Le Navi entend ce que Dieu lui dit. Le Urim Vetumim, il n'entend pas.
Mais le Navi, il entend. De quelle manière il entend, le Navi? C'est pas en direct qu'il entend. C'est dans des rêves, dans des... Je sais pas, c'est pas comme quand Dieu il parlait avec Moshe Rabbeinu. Alors que Urim Vetumim, c'est un objet qui a été conçu exprès pour que Dieu y parle dans ce Urim, dans ces pierres-là.
Et si le Kohen Gadol n'est pas Navi?
On s'en fiche du Kohen Gadol, c'est le Urim Vetumim qui compte. C'est le l'objet qui compte.
Alors un objet, il est plus fort qu'un homme?
Un objet que Dieu il a demandé de faire, ouais, certainement.
Un Navi qui est un homme de Dieu, qui est l'homme de Dieu, qui est en contact avec Dieu, et quand Dieu lui passe un message, c'est l'homme, le tzaddik, le kadosh, et le Urim Vetumim, c'est un Kohen Gadol, que peut-être il n'est pas Navi. Il est tzaddik, vadaï. La Gemara nous dit qu'il a besoin d'avoir Ruach HaKodesh, sinon ça ne marche pas.
Voilà.
Mais pas d'Afke Navi, Eviatar n'était pas Navi. David HaMelech, il demandait Eviatar. Et Eviatar ne compte pas parmi les prophètes. Alors, c'est un Kohen Gadol qui est l'Echora inférieur en Kedusha, en Tzidkut, que le Navi. Mais il a une boîte. Et maintenant, il passe un message dans cette boîte. Que cette boîte sera plus forte que le message que Dieu donne à un Navi. Ce n'est pas un chidouche, ça. C'est une boîte.
Quelqu'un, si quelqu'un parle dans un micro et on l'entend en direct, c'est plus sûr que si jamais il parle à quelqu'un et après le quelqu'un nous parle.
Je n'ai pas entendu. Qu'est-ce que vous dites? Parle plus fort, je n'ai pas compris.
Si quelqu'un parle dans un micro et on l'entend, c'est plus fort les paroles de lui que s'il parlait à quelqu'un et quelqu'un nous répète la chose.
Donc, qu'est-ce que vous voulez dire?
Je veux dire que, comme Hervé, c'est plus en direct avec les pierres qu'avec...
Mais les pierres ne se allument pas devant tous les juifs. Il n'y a que le Kohen Gadol qui voit ce qui se passe.
Mais la Gemara, elle parle pas de... Elle dit que Ourim Betumim et Nachozeretz. Ourim Betumim, ça veut dire si toutes les choses elles sont bien faites, c'est-à-dire que c'est un tzaddik qui parle au Ourim Betumim, c'est un type bien, un bon Kohen et tout, et ça peut pas revenir. Alors que voilà, parce que c'est sa fonction Ourim Betumim. Quand Dieu il a demandé à ce qu'on fasse les Ourim Betumim, c'est pour que justement on le consulte et que la réponse soit définitive, ferme, définitive.
Donc c'est pas. Et pourquoi ça doit être plus définitive que un avis?
Mais parce que c'est il a été fait pour ça, que pour ça. Le Ourim Betumim, il a été fait que pour une consultation.
Et le Navi, il était fait pour quoi?
Au contraire, si le Ourim Betumim, il est rosaire, ça pourrait être Chas v'Shalom grave. Ça veut dire on pourrait peut-être dire « Ah, ça marche pas ».
Ça, on peut dire sur le prophète aussi « Ah, le prophète, c'est un faux prophète ».
Ouais. C'est moins dangereux. C'est moins dangereux de dire un faux prophète. C'est un faux
voilà,
prophète.
Parce que ça reste un homme. Le prophète, ça reste un homme. Alors que l'Ourim Betumim, c'est une création de l'ordre de Dieu. Voilà.
Et le Navi, c'est pas un.
Non, mais sauf erreur, un prophète qui fait une fausse prophétie n'est Chayav Mita, non?
Oui. Mais un prophète qui annonce le mal n'est pas obligé de se réaliser parce que les gens, ils peuvent faire teshuvah. Et quand les gens ils vont faire tshuva et ça ne se réalise pas, les gens ils n'ont pas le droit d'accuser le prophète, vous êtes un faux prophète. Mais je vous ai dit que le bon Dieu, il a pitié avec les gens. Quand je vous ai annoncé le mal, mais Dieu, il avait pitié parce que vous avez fait tshuva. Si le Navi prophète promet une bonne chose, c'est obligé de se réaliser. Sinon, on le tue. Si le prophète, il dit, Dieu m'a dit que votre femme accouchera cette année un garçon, si elle n'accouche pas, après on va dire au prophète, vous êtes un faux prophète, il va dire non. En vérité, vous avez fait des avérotes, donc Dieu il a annulé la promesse. Ça ne marche pas ça. S'il est vrai prophète, si le prophète il a promis une bonne chose, c'est définitif, c'est obligé d'arriver. Si ça n'arrive pas, on tue le prophète, vous êtes un faux. Parce que les promesses que Dieu fait à travers les prophètes sont obligées, sont définitives quand c'est une bonne. Parce que si ce n'est pas définitif, on ne va jamais savoir qui est le vrai prophète, qui est le faux prophète. Chacun il peut faire des promesses. Et si ça ne se réalise pas, il va dire, oui, vous avez fait des averot, c'est annulé. Vous avez fait des mitzvot, ça s'est annulé.
Gog ou Magog, Gog ou Magog, ça s'est réalisé, non?
Mais de quoi vous parlez? Gog ou Magog, ce n'est pas encore réalisé. Mais si on parle de ça, on parle d'un prophète. On veut savoir si c'est un vrai prophète ou un faux prophète.
Pourquoi le prophète, il prévoit le futur, un futur qui est beaucoup plus tard que les pierres? Les pierres, c'est un futur proche.
Un homme qui fait une promesse, dans 2000 ans, va arriver quelque chose, ça nous fait ni chaud ni froid, donc on ne sait pas que c'est un prophète. Chacun, il peut faire des promesses dans 2000 ans. On tombe même un peu vers pas lui. Ça ne nous intéresse pas les gens qui racontent ce qui va arriver dans 500 ans. Ça ne nous intéresse pas ces gens-là, Bechlal. C'est d'abord, il faut savoir si c'est un prophète. Alors, un prophète, il faut qu'il annonce ce qui va arriver maintenant, demain, après-demain, dans une semaine, dans un an. Il fait des promesses. On fait des tests. Toutes les promesses qui sont gentilles sont obligées d'arriver. Si une ne s'arrive pas, c'est un faux prophète, on le tue. S'il fait une mauvaise promesse, il arrive une catastrophe et ça ne se réalise pas, ce n'est pas une preuve que c'est un faux prophète. Parce que c'est possible que les gens, ils ont fait tshuva. Ça, c'est les sortes. Maintenant.
On vous entend pas.
Oui, ils sont pas obligés de mourir parce que les gens, ils peuvent faire tchouba. Mais le bien est obligé de se réaliser. Quand Hachem l'a dit, les Juifs retournent à Israël, il y aura le Beth Amikdash et Mashiach va venir. Ça, c'est obligé. Mais pourquoi nous croyons ces prophéties? Pas parce que le prophète nous a dit qu'il va arriver Gog et Magog et Mashiach. C'est parce que le prophète qui nous a dit ça était Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu nous a dit des choses de 100 ans. Et nous avons vu que ça s'est réalisé. Moshe Rabbeinu a dit, Hachem il va descendre sur la Harsina, il va nous parler. Il a parlé. Moshe Rabbeinu il a dit, maintenant la mer va se couper en deux. Elle s'est coupée en deux. Qu'est-ce qu'il dit ici? Le Kohen doit décrypter ce que le Urim annonce, donc comme la nevoie. Oui, mais ce n'est pas exact. Le Ruach HaKodesh, ce n'est pas nevoie, parce que Eviatar n'est pas Navi. C'est Eviatar, il a décrypté. C'est vrai, il a décrypté le message sur le Urim et Thummim. Mais Eviatar ne fait pas partie des Nevi'im. Dans sa marche avec Ruach HaKodesh, qui est inférieur à nevoie.
Donc, pourquoi vous dites décrypter? Pourquoi vous dites décrypter? La réponse du Urim et Thummim n'était pas claire. Parce que vous dites décrypter. Hier, on a vu dans la Gemara, on a vu que justement les Urim et Thummim, ils donnaient une réponse claire. Et il n'y a pas besoin d'être. Il n'y a pas besoin de décrypter.
Alors, vous allez attendre encore quelques minutes et on va lire dans la Gemara le mot décrypté, d'accord?
D'accord. Le Urim et Thummim, il est obligé de nous répondre, non?
Est-ce qu'on ne peut pas faire les plus forts parce qu'on ne s'entend pas bien? J'entends pas très bien.
Je disais, le Urim et Thummim, il est obligé de nous répondre. Mais un prophète, il doit être en état de prophétiser pour pouvoir nous répondre. Il est possible que le prophète, il ne nous réponde pas en vrai, non?
C'est juste. C'est juste. Même les Urim et Thummim, ils ne sont pas obligés de répondre. Quand Shaul HaMelech, à la fin de sa vie, consultait les Urim et Thummim, ça ne marchait pas. À la fin, il a demandé les Urim et Thummim et ça répondait. Ce n'est pas obligé de répondre. Si Hachem ne veut pas répondre aux Urim et Thummim, ça ne marche pas. En tout cas, s'il y a un grand chidouche, un prophète, le Chorai, c'est un plus grand madriga. Un prophète, il dit quelque chose, on lui fait beaucoup plus confiance, le Chorai. Et lui, il est inférieur, le Urim et Thummim, mais quand même, c'est plus puissant. C'est plus sûr que ça va se réaliser. On parle pour le mauvais, pas pour le bon.
Et pourquoi vous dites que c'est inférieur, je ne comprends pas.
Parce qu'il n'est pas Navi. Parce qu'Eviatar n'est pas Navi.
Mais on s'en fout d'Eviatar. C'est l'objet qui compte.
Comment un objet peut être plus qu'un homme?
C'est un ordre de Dieu, c'est marqué dans la Torah. La Torah, il a dit, tu vas faire...
Et pourquoi la Torah fait des choses comme ça? Quelle est la logique? Que Dieu donnera plus de pouvoir à une boîte qu'à un prophète?
Pour montrer aux Juifs les miracles.
Et il donnera plus de... Il donne plus de pouvoir à une boîte qu'à un homme, tzadik, Navi?
Peut-être que parce qu'il y a une possibilité que ce Navi, ce soit un faux Navi.
Non, tu n'as pas compris.
Si, j'ai compris.
Non, tu n'as pas compris. Et quand c'est un Navi, on parle un vrai Navi.
D'accord, un vrai Navi.
Il annonce du mal, il n'est pas obligé de se réaliser parce que les gens, ils peuvent faire teshuva.
Très bien.
Et maintenant, si le Urim et Thummim annonce un malheur pour les ennemis, même s'ils font teshuva, quand même ça va se réaliser.
D'accord.
Parce que Dieu, il a décidé que l'annonce de Urim et Thummim est définitive. Je me demande pourquoi il donne plus de pouvoir à une boîte qu'à un homme.
D'accord. Dans l'histoire, quand les Urim et Thummim ont été consultés, dans toute l'histoire, jamais, il n'y a jamais eu une erreur, entre guillemets, une erreur du Urim et Thummim. Ça s'est toujours réalisé, ce qui a été marqué. Tout le temps. Ouais. Voilà. Alors que chez les prophètes, comme vous venez de dire, non. Si les Juifs, ils font tchouva, on parle de vrais prophètes, je ne parle pas des faux prophètes. Ouais. S'ils font tchouva, la xéra qui a été décrétée, elle ne se réalisera pas.
Oui.
D'accord. L'objet qui a été demandé, l'ordre de Dieu de faire un objet, c'est ça sa fonction. c'est de dire tout le temps vrai, dans le bien ou dans le mal. Point.
C'est juste. C'est bien. Voilà. Donc, mais moi, je demande pas... pourquoi c'est comme ça. Ma question, elle est pourquoi c'est comme ça. Pourquoi Dieu donne plus de pouvoir à une boîte?
Mais il y a c'est plein de... Logique. Et pourquoi un des habits du Kohen Gadol, ils amènent la capara pour tel péché, l'autre pour tel péché? Parce que c'est comme ça. Dieu, il a décidé comme ça.
Non, ce n'est pas parce que c'est comme ça. C'est pas parce que c'est comme ça. C'est parce qu'Hachem, oui, il avait une raison de le créer comme ça.
Voilà, d'accord. Oui.
Voilà.
Très bien. Et ben voilà. Alors que le prophète, il annonce une mauvaise nouvelle.
Alors je demande pourquoi Hachem, il a créé que la boîte, elle est irréprochable. Pourquoi Hachem, il a créé ce système?
Parce qu'il y a son nom. Il y a son nom.
Mais quand Yonahan Avi annonce la destruction de Ninive, il parlait en nom de Dieu.
Il est ouais, dit, mais là, il y a le nom.
Que la ville sera détruite.
Il y a le nom gravé, je crois. Non, c'est dans les Roum Vietoumim, on écrivait le nom de Hachem, le grand nom. Non, je ne sais pas.
Peut-être dans le Roum Vietoumim, il y a le nom gravé. Et ici, le nom, il est à prononcer. Et le prophète, il a prononcé le nom de Dieu en disant que la ville de Ninive sera détruite. Il a utilisé le nom d'Hachem, il a dit au nom d'Hachem, je vous dis, la ville sera détruite. Et quand même, ce n'est pas définitif. Ah, peut-être le pshat, il est la différence entre un homme et une machine, c'est que l'homme, quand il parle, il provoque be'emet un réveil que les gens y fassent teshuvah. Au même temps, Hachem, il a créé le système que quand Yona parle, comme c'est un homme justement, un homme qui parle, eh bien, sa kdusha fait réveille les gens de faire teshuvah. Donc, Hachem, il envoie les prophètes justement pour que les gens y fassent teshuvah. Donc, ça, c'est le propre le travail du prophète, d'essayer que les gens y fassent teshuvah. Et grâce à la teshuvah, sa mauvaise prophétie ne se réalise pas. C'est ça le but. Peut-être le prophète, il veut ça. Quand le prophète, il annonce que Ninive sera détruite, c'est pas que le prophète, il veut qu'elle sera détruite. Il veut qu'elle ne sera pas détruite. Et quand lui veut qu'elle ne sera pas détruite, il veut que les gens font tshuva. Donc lui, il met dans sa parole un hiro tshuva et les gens y captent. Et les gens y fassent tshuva. Et après, la ville ne sera pas détruite et le prophète, il est heureux. Mais une boîte n'a pas de sentiment. La boîte n'a pas de sentiment. Donc, la boîte, peut-être les ils ne sont pas faits pour réveiller les gens de tshuva. C'est pour rassurer les soldats. Le chef d'armée, il veut savoir s'il fait la guerre ou pas. Si on lui rassure qu'il va gagner, alors si on lui rassure qu'il va gagner, il va faire la guerre tranquillement. Et c'est ça le but.
Mais la boîte, c'est pas elle qui parle, la boîte.
Quoi?
C'est un intermédiaire, la boîte, c'est pas elle qui parle.
Oui, c'est Dieu qui parle travers la boîte.
C'est plus fort que le prophète. C'est un amplificateur de la parole de Dieu. Tandis que le prophète, c'est un intermédiaire.
Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, ces paroles que vous dites là.
La boîte, c'est un amplificateur de la parole de Dieu. C'est comme un micro.
Mais le prophète aussi, il a un micro.
Non, le prophète, on parle.
Il n'a pas de micro dans ses oreilles.
Lui-même, ce n'est pas un micro, lui-même. Ce n'est pas la parole de, c'est pas directement la parole de Dieu qui sort.
Comment la boîte, elle capte mieux que le navire? Mais les oreilles du navire pour capter la voix de Dieu, ils ne sont pas assez forts comme les oreilles de Urim et Thummim.
C'est un intermédiaire différent. C'est un intermédiaire moins sûr.
Pourquoi Dieu il a fait que c'est moins sûr? Voilà la question. Peut-être
pourquoi?
Parce que le but il était pour rassurer les gens.
Pourquoi?
Le navire, le but il est que les gens ils fassent teshuva. Ça c'est le but.
Pourquoi donc, David comme...
Quoi?
Mechila, pourquoi David Ameler, au lieu de consulter les Orim Betoumim pour l'histoire avec Shaoul, pourquoi il n'aurait pas consulté un prophète alors?
D'abord, il n'avait pas de prophète à porter de sa main.
Mais il y en avait des prophètes.
Quoi? Ils se traînent dans les rues?
Non, mais il y avait à l'époque de cette histoire-là, Shaoul, c'était qui? C'était Shmuel encore ou c'était plus Shmuel?
Shmuel.
Au début, il était vivant, mais après les Niftar, Shmuel. À ce moment-là, je ne me rappelle pas si Shmuel était vivant. Il y avait Gad Achozé et Menatan Anabi, mais ils n'étaient pas à la porte. C'est pas... Et même le prophète, il ne peut pas capter la voix d'Hachem, sauf si Hachem veut. Il faut essayer de se mettre en contact avec Hachem. Et les histoires du Rambam, et même quand le Rambam, il pense que et le prophète, même s'il se prépare, archi-préparation pour que Hachem lui parle, Hachem n'est pas obligé de lui parler.
Alors voilà, vous avez la réponse.
Il n'est pas obligé de venir. C'est un cadeau qu'Hachem fait.
Voilà, vous venez de donner la réponse, la différence entre le prophète et les Orim Betoumim. Les Orim Betoumim, il n'y a pas besoin de préparation. C'est leur fonction, elles sont là, elles répondent quoi qu'il arrive.
Oui, mais ce n'est pas ça que je demande. Je demande pourquoi c'est obligé de se réaliser. Je parle dans le cas où le prophète a reçu la névoie. Il a annoncé. Quand même, ce n'est pas obligé de se réaliser. Et pourquoi Dieu donne un pouvoir au revêtum que c'est obligé. Alors, on va continuer.
Ok.
Avish gzerat navi chozeret gzerat urim vetum en chozeret. Shenema car il est marqué b'mishpat ha'urim. Le jugement des urim. Lamani krashman urim vetumim. Pourquoi? Ça s'appelle urim et tumim. Urim shemi irin et divrehen. Il éclaire ses paroles. Rashi shemi ir shenema mishpat ke din sheino chozer. Mishpat urim, c'est un jugement, c'est définitif. Rashi dit que din comme une loi qu'on a décidée sheino chozer est un jugement. Ou shemi irin et divrehen, farshim et divrehen. Ils explicitent ses paroles. Alors, Shemi Irin et Divrehem, Tumim, c'est quoi Tumim? Shema Shlimin et Divrehem, ils réalisant leurs paroles. Shema Shlimin et Divrehem, que d'Amran, comme on a dit, En Gzeratan Choseret, la Gzeira qu'elle a annoncée, que la boîte a annoncée, elle n'est pas Choseret, elle ne revient pas en arrière et va se réaliser forcément. Ça, c'est le Pshat Tumim. Alors, peut-être le pshat, il est aussi, je ne sais pas si ça c'est le pshat, on va essayer, que quand ils ont distribué, bué l'Eretz Israël. Alors, comme ils ont distribué, ils ont partagé par le Urim et Tumim. Ils ont fait 12 territoires, 12 tribus, et après on a tiré, tirage au sort, et le Urim et Tumim s'était éclairé, qui a quoi. Donc, ce sont des choses définitives. Si jamais on aurait pu discuter, si jamais ça se discute, moi je reçois cette terre et l'enfer reçoit cette terre, et si je fais plus de mitzvot, peut-être Dieu va me donner plus. Alors on aurait eu 600 000 juifs qui se seraient battus avec des mitzvot et avec des shruyot interposées pour que le Urim et Tumim change d'avis. Hier, le Urim et Tumim m'a dit, je recevais ce château, moi j'ai vu un autre château, voilà, il faut changer. On n'en finit jamais. Alors, le Urim et Tumim, ils étaient donnés pour distribuer à Israël. C'est des choses définitives, on ne discute pas. Mais ça, c'est la partie héritage. Mais nous ne parlons pas de partie héritage, on parle maintenant de la partie guerre. Alors, on va continuer.
Si, excusez-moi, si oui. Le Kohen Gadol, la Shekhina, elle n'était pas présente, est-ce qu'il pouvait consulter les Urim et Tumim? Hein?
Qu'est-ce que vous dites?
Non, j'ai demandé si vous avez dit tout à l'heure que pour que les Urim et Tumim, il faut que le Kohen Gadol y ait la Shekhina.
Oui.
S'il n'y a pas la Shekhina qui est présente à ce moment-là, au moment où il veut consulter
les Urim et Tumim, ça ne s'allume pas la machine.
La machine ne va pas s'allumer.
Non.
D'accord. Ok.
Alors, on va continuer. Vim Tomar, si tu poses la question, Begibat Binyamin, dans la colline de Binyamin, Mipnemal ou Hishlimu. Pourquoi ça n'a pas réalisé? Alors, de quoi il s'agit? Alors, en deux mots. L'histoire, il a été qu'un crime a été fait. Un homme, il s'est fâché avec sa concubine. Elle est partie chez ses parents. Et après le gendre, il est parti chez son beau-père. Et il a fait la paix avec elle. Ils ont mangé. Et après, il a pris sa femme et dit, maintenant, on va repartir. Le père, il a dit, restez encore un petit peu. Ils ont resté encore une nuit. Après, il a dit, le lendemain, on va partir. Le père, il a dit, non, restez encore un peu. Ils ont passé encore une nuit. Après, le lendemain, il a dit, maintenant, je vais partir. Alors, le beau-père, il dit, restez encore un peu. Il ne dit plus de questions. Ça y est, maintenant je pars à la maison. Et il a pris sa femme avec l'âne et le sandwich et ils sont partis. Et quand ils sont partis, le soleil se couchait. Alors il a dit, ah, c'est pas bon de rester ici. C'était tout au début de la conquête d'Eretz Israël. Il y avait encore beaucoup d'égoïmes aussi dans la région. Ils ont dit, nous ne voudrons pas rester ici en pleine nuit. Il faut rentrer dans une ville. Donc il y avait un village qui s'appelait un certain nom. Alors, comment il s'appelait? Un certain nom. Elle appartenait à la tribu de Binyamin. Alors, ils ont dit, on va rentrer dans la ville. Ils sont rentrés dans la ville, ils frappent à la porte, est-ce qu'on peut passer la nuit? Ils ont dit non. Chez nous, ce n'est pas pour les invités. Alors, ils ont frappé une autre porte. Non. Troisième porte, non. Personne ne voulait le recevoir. Alors, il y avait un homme dans cette ville que lui, il n'appartenait pas à la tribu de Binyamin, il appartenait à la tribu de Houda. Par hasard, il habitait là-bas, vieux. Il a vu, il a dit, rentrez chez moi. Donc, ils sont rentrés chez lui. Il a dit, voilà, mangez, dormez, demain, vous allez continuer. Et après, les gens du village, ils ont encerclé la maison. Et ils ont dit, faites-nous sortir ce monsieur. On veut faire des bêtises. Alors, le vieux, il est sorti, comme l'histoire de Lot. C'est copier l'histoire de Lot. Alors, le vieux, il est sorti, il a dit, ne touchez pas cet homme-là. Je ne vous permets pas. Alors, il a pris la concubine, on l'a mis dehors. Alors, ils ont fait des avirotes. Le lendemain matin, quand il ouvre la porte, elle était morte. Au seuil de la porte, elle était morte. Alors, le monsieur, il a pris sa femme et il l'a mis sur un âne. Il est parti chez lui à la maison et il a pris un couteau, il l'a coupé en pièces. Il l'a envoyé aux 12 tribus, aux 12 batedinim. Chaque tribu, il avait un bedin. Alors, ça reçut un pied, lui la tête, lui la foie, avec une lettre accompagnée. Alors, les gens, les bedin, ils ont vu ça, ils ont dit, on va tous se réunir. Ils se sont réunis, ils ont appelé ce monsieur, il a dit, qu'est-ce que c'est comme histoire là? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il a dit, voilà, c'est ça qui se passait. Voilà. Alors, maintenant, c'est à vous d'agir. Alors, le bedin, tous les juifs ont réuni, ils ont dit à la tribu de Benjamin, c'est arrivé chez vous, nous décrétons, et vous devez décréter qu'il faut mettre à mort tout le village. Ce village ne doit pas rester chez le peuple juif. Ce n'est pas possible une chose pareille. Alors, la tribu de Binyamin a refusé d'appliquer cette sentence. Ils ont dit non, on n'applique pas ça. Mais non, mais ils ont dit, d'abord, il n'y a pas de témoins, ce n'est pas sûr, même probablement, mais halakhiquement, on ne mérite pas. C'est sûr qu'halakhiquement, ils ne méritent pas. Il n'y a pas de témoins, on ne peut pas, il n'y a pas d'avertissement. Halakhiquement, la tribu de Binyamin a raison. Alors, le Beit Din a dit, même si halakhiquement, on ne va pas mettre à mort, mais nous mettons quand même à mort, parce qu'il faut éliminer une chose comme ça, une immoralité organisée à un tel truc, il faut mettre le point sur les i. Le Beit Din, il peut faire des décisions en dehors de la loi de la Torah quand il faut mettre les points sur les i. On va mettre les points sur les i, vous êtes obligés de les massacrer. La tribu de Binyamin a dit, non, on ne le fait pas. Alors, les Juifs, ils ont dit, bon, alors, si les tribus de Binyamin ne le font pas, on va massacrer les tribus de Binyamin. Alors, on va faire la guerre contre Binyamin, on va éliminer tout Binyamin. Alors, ils ont allé faire la guerre. Alors, il y avait Pinchas. Alors, il y avait Pinchas avec le Urim et Thummim. Alors, ils ont consulté. Est-ce qu'on fait la guerre contre Binyamin? Le Urim et Thummim, ils ont répondu, oui. Alors, ils ont fait la guerre, les Juifs, ils ont perdu. Et Benjamin a gagné la bataille, il y avait une millier de morts chez les Juifs. Alors, ils ont venu le lendemain chez Pinchas. Est-ce qu'on fait la guerre? Il a répondu oui. Ils ont fait la deuxième guerre et ils ont perdu. Benjamin, ils ont gagné. Alors, le soir, ils se sont tous mis à pleurer. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais pourquoi ça? Après, ils sont revenus le lendemain chez Pinchas. Ils ont dit chez Pinchas, est-ce que si on fait la guerre, est-ce qu'on gagne? Alors, le Urim et Thummim dit, oui, vous allez gagner. Oui, vous allez gagner. Ils ont fait la troisième guerre, ils ont gagné, ils ont massacré toute la tribu de Benjamin, sauf 600 personnes, ils ont pu se sauver. Après, les Juifs, ils sont revenus, ils se sont tous mis à pleurer. Ils ont dit, c'est pas possible que Dieu veut qu'on élimine une tribu entière. Alors, pourquoi c'est arrivé cette histoire? Voilà, cette histoire est arrivée. L'immoralité a commencé comme ça. Donc, ça finit, il y avait 126 000 morts. Chez les Juifs, il y avait 100 000 morts. Chez les tribus de Binyamin, il y avait 26 000 morts. et la tribu divine est presque arrêtée. C'était tout au début des Shoftim, cette histoire. Maintenant, on va revenir chez nous. La question elle est, à première vue, que les Urim Vetumim, ils ont donné une fausse information. Ils ont demandé à Pinchas, est-ce qu'on fait la guerre contre Binyamin? Il dit oui. Donc, eux, ils ont compris, oui, ça veut dire on va gagner. Et ils ont perdu. Donc, les Urim Vetumim les ont induits en erreur.
Alors, c'est la question qui était mauvaise. Pourquoi? La question, elle a été mal posée.
Pourquoi?
Ben, la troisième fois, ils ont bien posé la question, est-ce qu'on va gagner?
Qu'est-ce qui a du mal, la première?
Ben, est-ce qu'on fait la guerre? On fait la guerre, on peut la perdre. Ils n'ont pas posé, ils n'ont pas dit on va gagner ou on va perdre.
C'est la réponse de la Gemara. Alors, on va appliquer la Gemara. Vim Tomar, nous sommes quatrième ligne de la Gemara. Tumim shemashlimin et divrehem, ils réalisent toujours ce qu'ils disent. Vim Tomar, si tu poses la question, Begivat Binyamin, dans la Giva de Binyamin, Mipnemalo Hishlimu, comment ça se fait que les Urim Vetumim n'ont pas réalisé ce qu'ils avaient promis?
Excusez-moi, c'est quel daf, c'est quel masachet?
C'est Aïn Gimel Amoudbet.
Dans
Psachim? Yuma, Aïn Gimel Amoudbet.
Merci.
La quatrième ligne ou c'est une de la grande ligne? Mipnemalo Hishlimu, pourquoi les Urim Vetumim n'ont pas tenu leur parole? Parce que Hem, eux, les Juifs, ont posé la question. Non, il faut éteindre le. Hem shelo bichanu. Il y a quelqu'un qui a ouvert. Hem shelo bichanu. Eux, ils n'ont pas consulté. Im la natsiach, im lehinatsach. S'ils vont gagner, s'ils vont perdre. Ils ont demandé, est-ce qu'on fait la guerre? Il a dit, faites la guerre. Que ilou, Hachem, il voulait qu'on fasse la guerre. Pourquoi Hachem voulait qu'on fasse la guerre? Parce qu'il faut donner une leçon au Binyamin. Alors, s'il faut donner une leçon au Binyamin, pourquoi Hachem n'a pas fait gagner la première fois? Pourquoi il fait perdre les Juifs la première fois et la deuxième fois? La Gemara nous dit parce qu'il y avait chez les Juifs une faute. Les Juifs aussi, ils n'étaient pas nickel. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, il y avait une maison d'Avodah Zarah qui était entretenue par Micha. Micha, avec le petit-fils de Moshe Rabbeinu, ils avaient une espèce d'église. Et dans cette église, il y avait le Ktoret. Et ce Ktoret était pas loin de Shiloh, et le fumet de Shiloh se mélangeait avec le fumet de ce type-là. Et les Juifs, ils étaient au courant qu'il y a une espèce d'Avodah Zarah. Et comment ça se fait que les Juifs n'ont pas fait la guerre contre Micha? J'aurais dû faire la guerre contre Micha. Quand ils ont vu qu'on a touché cette femme-là de ce monsieur, ils ont dit, on ne touche pas une femme. La tribu des Binyamin se comporte mal, on massacre la tribu. Alors si déjà l'honneur, la Gemara nous dit, l'honneur d'un Bassar Badam les a tellement touchés pour qu'ils ont décidé de massacrer, de faire la guerre, il fallait faire la guerre aussi pour l'honneur de Dieu, que Micha y fait une maison Avodah Zarah. Donc ça ne leur a brûlé pas tellement. Donc Hachem il a dit, si l'honneur des Bassar Badam vous brûle plus que l'honneur de Dieu, eh bien la première bataille sera perdue et la deuxième bataille était perdue. Alors on va continuer. Donc Hem lo bichanu im lanatzeach im lanatzach. Eux ils n'ont pas vérifié s'ils vont gagner ou vont perdre. Ou ba'achrona she bichanu, et la dernière fois quand ils ont vérifié, iskimu. Alors là ça tourneront. Je n'ai jamais c'est marqué. Ou Pinchas ben Elazar ben Aaron, Omed lefanav bayemimem, était devant Dieu ces jours-ci. Les morts, et ils ont demandé pour la troisième fois, Osef od latzet la milchama. Est-ce que je vais encore une fois sortir la milchama? Im bnei Binyamin achi, im echdal, où je dois m'arrêter. Vayomer Hashem, alou, montez, kimachar, etnenu beyadecha. Ça veut dire que quoi? Qu'en vérité, ils ont demandé deux questions. Ils ont demandé deux questions. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Hem shelo bichanu. Rashi, la dernière ligne où c'est large. Hem shelo bichanu. Ou revetumi lo pircha lahem bishnei yamim arishonim alu vehitzlichu. Ah. La première fois, c'est eux, ils ont demandé, est-ce qu'on fait la guerre? Ils auraient dû attendre quelle est la réponse. La première fois, la réponse était « faites la guerre ». Et la troisième fois, « faites la guerre et vous allez gagner ». Et on ne fait la guerre qu'une fois que les rois me dominent, me promettent qu'on va gagner. Ça veut dire qu'après la première réponse, quand ils ont demandé la première question, est-ce qu'on fait la guerre? L'Orevetomi disent, faites la guerre. Maintenant, il faut demander la deuxième question. Est-ce qu'on gagne ou est-ce qu'on perd? Alors, si le ciel dit, vous perdez, eh bien, il ne faut pas faire la guerre. Mais eux, ils n'ont pas demandé. Pour eux, ce n'était pas chaud qu'on va gagner. Ils ne pouvaient même pas s'imaginer. Ils étaient tellement sûrs qu'ils font une mitzvah. Si Hachem dit fait la guerre, évidemment, on va le gagner. Ce n'est pas possible qu'on va le perdre parce que notre kavana est bonne. Mais ils ne savaient pas que le bon Dieu, il était en vérité fâché avec eux parce qu'ils n'ont pas fait la guerre contre Abodezara de Micha. Donc, il ne fallait pas être aussi sûr qu'ils vont gagner. La troisième fois, Hachem a répondu, oui, faites la guerre et vous allez gagner. Alors, la dernière ligne de Rashi, où c'est large. Il n'aura pas précisé les premiers deux jours. Allou, montez, vous allez réussir. Et là, allou, et seulement allou, et là, faites la guerre. Et la suite n'est pas assurée. On ne sait pas comment ça va être. Moi, je ne vous dis pas si vous allez gagner ou perdre. Bachaona, ça veut dire. En vérité, eux, ils avaient bien vu que le ciel n'a pas répondu s'ils vont gagner ou perdre. Mais pour eux, c'était tellement pas sûr qu'il faut donner un coup à Binyamin qu'ils ont dit, même si on va perdre, on fait quand même la guerre. Il y a des gens qui sont tellement convaincus dans leur décision, ils vont dire, si on gagne ou si on perd, il faut que je le fasse. En vérité, c'est faux. Quand on perd, il ne faut pas le faire. Mais eux, ils étaient des kamikazes. Et on est obligé de mettre le point sur lui.
Si c'est pas shoot, pourquoi il demande alors?
Non, c'est pas shoot. Il a raison, c'est pas shoot. Ils avaient des safek. Qu'est-ce qu'on fait une bonne? C'est pas tous les jours qu'on se lève pour massacrer un type entier. Ils savaient qu'ils sont en train de faire quelque chose d'inédit, quelque chose de catastrophique, quelque chose un phénomène unique dans l'histoire du peuple juif. Ils savaient que ce n'est pas Pachout, il faut consulter Dieu. Mais une fois qu'ils ont consulté, et Dieu il a dit, faites, c'est bon, on doit le faire.
Est-ce Dieu que c'est le Bédine qui a décidé ça, tous les Batédinim qui ont décidé? Alors, il doit faire, pourquoi il demande? Pourquoi il ne demande pas? Pourquoi il ne demande pas l'autre question? Pourquoi ça s'arrête juste là? À quoi ça sert, c'est Urim Betoumim, si de toute façon, on me dit fait, mais en fin de compte, ce n'est pas pour mon bien?
Non. Peut-être que... le Orvetomim, c'est une aide qu'Hachem il a fait, que si les Juifs veulent faire une guerre, ils peuvent consulter si c'est bien ou si c'est pas bien. Une guerre, on ne sait jamais à 100% si c'est bon ou pas bon de faire la guerre. Peut-être mieux de ne pas faire la guerre et ça va passer comme ça. C'est des choses très difficiles, ça dépend. Il y a des gens, des centaines, des milliers, des dizaines, des milliers de morts peut-être. On ne fait pas, c'est des questions très graves. Et Hachem leur a dit, je vous fais un cadeau, vous pouvez me consulter. Donc, eux, ils ont consulté. Ils ont oublié le dernier morceau, ils ont oublié.
Peut-être que la première et deuxième fois, lorsque Pinchas il a demandé au Rim Betoumim, peut-être en vérité, la bonne réponse, elle a été donnée. Et comme vous avez dit tout à l'heure, crypté, là. Et peut-être que la bonne réponse, elle a été donnée, et Pinchas, il n'a pas su décrypter.
Non, c'est pas ça que la Gemara dit. La Gemara dit que Pinchas il a bien décrypté, il a dit, c'est marqué ici, faites la guerre. Mais il n'a pas dit, faites la guerre et gagnez-le. Ça, il n'a pas promis. Alors, on va continuer.
Rabouan, je vous pose une question.
Je vous entends mal.
Comment ça se fait que la tribu de Benjamin, elle n'a pas dit...
On l'entend pas bien.
Avec cette Pilegesh. Là, vous m'entendez, là? M'entendez?
Oui.
Comment se fait-il que la tribu de Benjamin n'a pas livré les fauteurs qu'on fait avec la Pilegesh? Comment ça se fait qu'ils ont... Ils étaient complices, alors? Ils étaient d'accord, plus ou moins? Ou alors, ils n'arrivaient pas à les attraper? C'était des bandits très forts. Vous avez compris la question?
Oui, j'ai déjà répondu à cela avant. J'ai dit qu'il n'y avait pas de témoin qui a fauté. Donc il ne méritait pas la mort.
Dis-moi, comment la personne qui les a hébergés, il a été tué, celui qui les a...
Il n'y avait pas des témoins. Qui est-ce qui avait fauté? Alors, il n'y avait pas de témoins. Qui est-ce qui a fauté, qui n'a pas fauté? Il n'y avait pas d'avertissement, donc selon la halakha, il ne méritait pas la mort. Après, on continue. Bachrona, Rachidi Bachrona, Pirshulehem, Kimachar et Nenabeatra. La dernière, la troisième consultation, donc, ils ont répondu que vous allez gagner. Alors, je continue. Eitzadna Asi, continue la Gemara. Eitzadna Asi, comment ça fonctionne? Il faut fermer, il y a quelqu'un qui n'a pas fermé. Il faut fermer les. Comment se fait le Urim et Tumim? Alors, Rabbi Yochanan Amar, Boltot. Les lettres Boltot. Ils sont bolettes. C'est quoi bolettes? Ils sortent. Bolettes, ils se font remarquer. C'est-à-dire, ils s'allument fortement. Ça clignote. Paf, ça s'allume. Boltot. Reslakishamar mitstarfot. Ça s'additionne. Ça veut dire quoi, ça s'additionne? Lisons Rashi. Boltot ha otiot, boltot kugon aïn mishimon. Dans le mot Shimon, il y a la lettre aïn. La aïn commence à s'éclairer. Lamed milevi, hei vihuda, lomar ale. Allez, allez-y, faites la guerre. Comme on écrit allez, Aïn, Lamed, Hey. Donc, comme on sait allez, il a Aïn de Shimon, le Lamed de Lévi, le Hey de qui? De Yehuda. Il commence à clignoter. Mais elle ne bougeait pas. La pierre est restée à sa place. Et lui, le Kohen Gadol, Metzarfan, il additionne dans sa tête. Alors, l'Ichora, il n'y a pas de machloket Rabbi Yochanan Resh Lakish. L'Ichora. Les deux, un, il dit une partie. D'abord, c'est Bolet, et après, on est Metzaref. Alors, le Gemara demande, vous, locatif, vous, tzadi. Mais imaginez-nous qu'il faut dire une réponse. Où il y a un tzaddik, par exemple, le Hatzlach, tu vas réussir. Il y a un tzaddik. Maintenant, les noms qui sont marqués, c'était Rouven, Shimon, Levi, Yehuda, Yisachar, Zebulon, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Yosef ou Binyamin. Dans tous ces mots, il n'y a jamais un tzaddik. Alors, comment le bon Dieu, quand il veut répondre, il peut répondre avec un tzaddik? Il n'y a pas de tzaddik. Amar Rav Shmuel bar Yitzhak, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Ketiv, Sham. Il y avait aussi le nom d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, qui était aussi écrit sur les pierres. De ça, il y a un avis qui dit, sur la première pierre de Rouven était marqué l'Aleph d'Abraham, sur Simon c'était marqué le Bet, sur Leib était marqué le Resh. Sur chaque un des douze, il y avait une des lettres d'Avraham, Yitzhak, Yaakov. Et la chute de Rambam, c'est qu'Avraham Yitzhak Yaakov était écrit au début. Sur la pierre de Rouven, avant de marquer Rouven, il est marqué Avraham Yitzhak Yaakov Rouven. Avraham Yitzhak Yaakov Ktif, Sham. Vahal Optif Tet, mais il manque le Tet.
Ça fait 12 lettres, Avraham Yitzhak Yaakov?
Quoi?
Avraham Yitzhak Yaakov, ça fait 12 lettres.
Pourquoi tu es tombé amoureux de la chiffre 12? Tu as gagné 12 millions.
Oui, puisque c'est une lettre sur chaque. Une lettre sur chaque tribu. Ça fait 12. Mais moi, non, je comprends. Pas...
Lis, alors tu peux compter. Abraham, c'est combien? 5. Yitzhak, c'est 4. 5 et 4, ça fait combien? Ça fait combien, 5 et 4?
9.
9. Et à Kovia 4, ça fait 13.
13.
Donc, il y avait sur une, il y avait deux lettres. Parce que chez les Juifs, Rouven, Shimon, Lévi, Lévi, le pauvre, il n'a que 3 lettres. Donc, on lui ajoute 3. Dan, le pauvre, il n'a que 2. On lui ajoute 4. Alors, moi, je demande, Halo Ketif Tet, mais il manque le Tet. Rouen, Shimon, Levi, Yehuda, Yerabam, Israël, Yaakov, tout ça, il n'y a pas de Tet dedans. Amar, Rabbi Yaakov, Shifte, Yeshurun, Ketif, Sham. C'est aussi marqué le mot Shifte, Yeshurun. D'après le Rambam, Shifti Ishur a été marqué à la fin, Binyamin Shifti Ishurun. Et d'après l'autre Pshat Rabbi Nebuchadnezzar, le mot Shifti Ishurun était ajouté aussi sur les, pour compléter. À la fin, chacun il avait 6 lettres et il y a de la place à rentrer bien dedans. Alors, Meis Veyon pose une kushya à Kol Kohen, She'enu Medaber Ruach HaKodesh, Veshchina Shora Alav, En Shora Alimbo. Chaque Kohen qui n'a pas une parole de Ruach HaKodesh et la Shechina n'est pas sur lui, En Shora Alimbo, on ne lui consulte pas. Share Sha'al Tzadok, Va'al Talo, parce que quand David il a consulté Tzadok, ça répondait. Et Eviatar, Velo Altalo. Et il y a Eviatar, non. À quelle histoire dans Absalom, ça veut dire. Il faut comprendre comme ça. Il y avait, Aaron Akon, il avait 4 enfants. Donc 2, ils sont morts. Hier, ils sont morts. Vous avez entendu? Qu'est-ce qui s'est passé hier, l'accident? Il y en a 2 qui sont morts. Vous avez entendu? Les 2 enfants d'Aaron. Comment ils s'appelaient déjà? Comment il s'appelait?
Nadav et Aviou.
Nadav et Aviou. Ils sont morts hier matin. Vous vous rappelez, hier matin? On l'a vu dans le fromage. Alors, hier matin, dans Shrodesh Nissan, il restait donc Elazar et Itamar. Donc, quand Aaron à Kohen et Niftar, c'est son fils Elazar qui est devenu le Kohen Gadol. Et il restait Itamar qui n'était pas le Kohen Gadol. Donc, qui était Elazar, après qu'Elazar est Niftar, qui est devenu le Kohen Gadol, son fils Pinchas. Pinchas, il a vécu très, très, très longtemps. Pinchas, il a un srout et un bracha, il a été le British Shalom, il a vécu très longtemps. J'ai à l'époque de Niftar encore, il a vécu très longtemps. Et après, Pinchas a disparu. Et qui est devenu le Kohen Gadol de Itamar. Eli HaKohen était de la famille de Itamar. Pas de Elazar, mais de Itamar. Parce que Pinchas devrait être puni, que maintenant, c'est devenu le moment de Itamar. Après Eli à Cohen, ses enfants, ils ne se comportaient pas bien. Alors Shmuel Hanavi, il a fait une voix. Il a dit à Eli à Cohen, quand il était tout petit, et Eli, il a dit, est-ce que Dieu t'a parlé la nuit? Il a dit, oui, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il ne voulait pas parler. Il a dit, dis-moi ce qu'il t'a dit. Il a dit qu'il viendra le moment que Dieu va punir vos enfants parce qu'ils ne se comportent pas bien. Et viendra le moment que Dieu choisira dans le peuple juif une meilleure famille pour être Kohen Gadol. Sous-entendu, que votre famille d'Eli Kohen, qui est des Itamar, vous êtes maintenant les Kohen Gadol, mais à cause des péchés d'Eli, des enfants d'Eli, la Kohuna va revenir dans la famille d'Elazar à Kohen. On va l'enlever des Itamar pour donner Elazar. Très bien. Après, à Nov. Après la destruction de Shiloh, il y avait Nov, il y avait Achimelech, le Kohen Gadol. Et après, Shmuel Melech, il a tué Achimelech avec tous les Kohanim et restait un fils vivant, Eviatar. Eviatar était aussi de la famille des Itamar. Alors, Eviatar, c'est un tzadik, il a accompagné David et Melech, il s'est mis sur le côté de David et Melech. Mais David et Melech, il savait qu'à un moment, la Kohuna doit être enlevée d'Eviatar, elle doit être redonnée à la famille d'Elazar. Alors, autour de David et Melech, il y avait un deuxième Kohen, Tzadok à Kohen. Et Tzadok à Kohen était la famille d'Elazar. Et alors, David et Melech, il a dit, tant que les Urim et Tumim répond à Eviatar, c'est Eviatar le Kohen Gadol. Et si jamais les Urim et Tumim ne répond pas à Eviatar, eh bien, quand il irait, ce sera non, Tzadok qui sera nommé. En vérité, Tzadok, il était nommé seulement avec Shlomo HaMelech après. Quand Shlomo HaMelech, il a construit le Mikdash, officiellement, il a intronisé Tzadok. Mais Tzadok, il me semble qu'il était déjà un peu Kohen Gadol avant. Alors, le texte, il dit, c'est pendant la guerre avec Achitophel. Non, pas Achitophel, mais avec Avshalom. Quand Avshalom, il voulait tuer son père, alors Eviatar et Tzadok, les deux, ils ont accompagné David HaMelech. Alors, sur la route, David et Melech, il a consulté Eviatar et Urim et Thummim ne répondait pas. Il n'y avait pas de réponse. Alors, David, il savait, bon, et Tzadok, ça répondait oui. Il avait perdu Ruach HaKodesh ce moment. Alors, le texte, il dit, s'il n'y a plus de Shrina, on ne demande pas, Sha'al Tzadok, Ve'al Talou. Quand David, il consultait Tzadok, ça répondait. Eviatar, Ve'al Talou. Quand il avait demandé Eviatar, Ne répondez pas. Shenemar Vayal, Eviatar, Atom, Kolhador. Alors, maintenant, la Kusha de la Gemara, elle est, étant donné que le Kohen Gadol, il a besoin de Ruach HaKodesh pour répondre. Alors, pourquoi on a besoin de la boîte? Avant, tu as dit que quoi? Que c'est la boîte qui éclaire, les lumières s'allument, et grâce à cet allumage de ces lettres, c'est ça la réponse de Dieu. Mais de l'autre côté, tu dis qu'il faut que le Kohen ait la Ruach HaKodesh. Donc, c'est le Ruach HaKodesh du Kohen qui reçoit la réponse. Alors, on n'a pas besoin de la boîte. Alors, ça veut dire quoi? La boîte, elle s'allume. Alors, comment on répond? Si Yue Humesaye Bahadayu. Il y a une aide. La boîte, elle aide au Kohen pour le Ruach HaKodesh. Nous lisons Rashi. Vous avez Rashi. Shaharei. Shaharei. Sha'al Tzadok. Shaya David Borech Mepni Avshalom. Quand David dit se sauver d'Avshalom. Alors, Tzadok s'est répondu, Shenemar Vayal Eviatar, Atom Kol Ha'am La'avor, Tanya Beseder Olam, il marque dans Sefer Seder Olam, Sha'al Be'ur Vetoumim, Mikon Sur Vetoumim, Belo Al Talo, il n'a pas répondu, Menistalek Mina Kehuna, il était obligé de quitter la Kehuna, Shenemar Vayal Eviatar, Mideketani, Debaï Kohen Hamdabe Baruch HaKodesh. Donc, si tu dis qu'il faut que le Kohen y parle avec Ruach HaKodesh, Alma, Lobotot, Lomitztarfot, donc les lettres, ils ne bougeaient pas, ils n'éclairaient pas. Dim Kena Male Ruach HaKodesh. Parce que sinon, pourquoi tu as besoin de Ruach HaKodesh? Alors, le Gemara nous dit, si Yue, Hava Messaye, Kohen, Bahad, Urim Vetumim. Le Kohen, il aidait Urim Vetumim, ou le Urim Vetumim aidait au Kohen, il kach. Si c'est un Kohen qui est kasher, qui a Ruach HaKodesh, dans ce cas-là, les otiot boltot. Les otiot sortent au mitzvot al yado, et si les Kohen appellent, il appelle Ruach HaKodesh, le boltot, le mitzvot. Alors, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est mitzvot. Je ne sais pas encore pigé boltot. Ça veut dire, ça c'est clair, c'est boulette.
Mistarfot, il les met dans l'ordre, les lettres.
Mais il croit le mitzarfot mashma, qu'il est, c'est la pierre lui-même. Je ne sais pas. C'est le truc, je ne sais pas. Alors, on continue.
Excusez-moi, j'ai une question.
Est-ce
mais
que l'éclairage, en fait, l'éclairage des pierres était plus intense par rapport.
Je n'ai pas entendu.
Hein? Allô?
J'ai pas entendu.
Est-ce que chaque pierre éclairait de la même intensité, de la même. Ah bon? Est-ce que chaque pierre éclairait d'une force plus forte ou moins forte? Et là, ça mettait dans l'ordre, peut-être.
Peut-être, peut-être, peut-être.
Moi, j'ai une question. En fait,
l'ignoranté dans l'ordre, peut-être. Tout d'abord, éclairé d'un coup. Et après, pour mettre dans l'ordre, le Aïn, Lamed, Hei, le Aïn, tic, 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 tic. Et après, le Lamed, tic, 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 tic. Après, le Hei, tic, 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 tic. Après, il a compris. Peut-être c'est comme ça. Vous voyez qui pose la question?
Oui, excusez-moi. Les noms des Shevatim, ils étaient pas ils étaient marqués sur le pectoral? Ou bien ils étaient marqués sur les côtés?
C'est deux choses. C'est deux choses différentes.
Il est marqué il y a deux fois.
Il y a Shtei Avne Shoham. Il y a deux pierres de Shoham qui étaient sur les épaules du Kohen Gadol. Et dessus était marqué Shmot Bnei Israël. Shisha Mishmotam al Heaven Echat. Et Shisha Hanotrim al Heaven Hasheni. Ketolotam Asecharash. Emem Tuchirotam. Tavadar Bnei Israël. Ça, c'est sur l'Avne Shoham. Après, il y avait 12 pierres. Il y avait 12 pierres. Hatour Harishon. Hatour Harishon. Adam, Ita, Ubrek, Atour Hasheni, Nofer Sapir, Véalomage, Tour Hasheni, Star Shishon, Véhoshpe. Donc, ça, c'est le quatrième. Donc, ça, c'est 12 pierres, c'est marqué dans Chumash, que les Shmot Bnei Israël étaient gravés sur les 12 pierres. Mais notre Gemara fait un chidouche que pas seulement les 12 noms étaient marqués sur les 12 pierres, mais sur les 12 pierres, il y avait un ajout. Il y avait Abraham, Yitzhak, Véakov, Shifteika. Il y avait ces paroles aussi sur les 12 pierres. Et ce sont les 12 pierres qui se sont éclairées. Ce n'est pas les Avnei Shoham. Les Avnei Shoham, ils n'avaient pas de Urim Vetumim. Eux, ils n'étaient pas éclairés. Mais c'était les 12 pierres de Ruach HaKodesh. Maintenant, pourquoi Abraham et Israël n'avaient pas des pierres pour eux-mêmes? Si le bon Dieu, il veut qu'Abraham et Jacob sera aussi marqué sur les 12 pierres, pourquoi ils n'ont pas reçu une pierre eux-mêmes? Et le bon Dieu, il aurait pu faire 15 pierres, 12 pour les 12 tribus, et 2 pierres, pour, et 3 pierres pour Abraham et Jacob. Pourquoi il n'a pas fait comme ça?
12, c'est divisé par 4 et par 3.
Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il répond? Je pose une question. Il y avait 12 pierres. Avec les 12 noms. Mais après, on ajoute encore Maître Jacob sur ces 12 pierres. Je demande pourquoi le bon Dieu n'a pas demandé de faire 15 pierres. Un pour Jacob, un pour Ouven, un pour Shimon. Voilà, 15 pierres.
C'est un autre niveau. C'est un autre niveau, Abraham, Israël, Jacob. Les 12 étaient équivalents.
Ça vous dit rien, cette question? Vous avez jamais entendu cette question demandée? Jamais vous avez entendu?
C'est quoi la question? Hein? C'est quoi la question?
Pourquoi il y avait 12 pierres sur les Avnei Choshen Mishpat et les Avnei Choshen Yaakov étaient gravés sur des pierres? On n'a qu'à faire 15 pierres et donner une pierre à Abraham aussi, une pierre à Yitzhak, une pierre à Yaakov.
Parce qu'on peut demander l'aide d'Abraham, Yitzhak et Yaakov indépendamment. Ça, c'est obligé. Tout le peuple juif, c'est... on peut demander ces trois-là. Mais les 12 tribus, ils ont un scout particulier.
Ça ne vous dit rien, cette question? Vous n'avez pas entendu ça il y a 3 semaines, cette question, dans Parshat Terouma?
Mais c'est les Orim Betoumim. Ils ont été faits quand?
Quoi?
Quand est-ce qu'ils ont été fabriqués, les Orim Betoumim?
En 1772.
Non, non.
Et pourquoi on n'a pas mis Adam Arishon, pourquoi on n'a pas mis Noah, et pourquoi on n'a pas mis tout le monde alors?
Attendez, je n'ai pas posé toutes les questions du monde. Je dis, ils ont... parmi ces Yaakov, on a voulu graver, on n'a qu'à leur donner 3 pierres pour eux.
Les Orim et Toumim, ils ont été fabriqués quand les Juifs ils ont reçu la Torah, après la Torah.
Quand ils ont construit le Mishkan.
Quand ils ont construit le Mishkan, d'accord. Quand les Juifs ils sont sortis d'Égypte. Et c'est pas, il n'y a plus Abraham, Israël, Yaakov. Là, c'est les 12 tribus. C'est le peuple Israël qui est sorti d'Égypte. Et donc, les Orim et Toumim, c'est pas par rapport à eux.
Mais M. Rouven et M. Shimon et M. Lévi n'existaient plus à l'époque de la sortie d'Égypte.
Mais leurs descendants, ils existaient.
Et les descendants d'Abraham, Israël, Yaakov aussi, ils existaient.
Mais c'est pas une tribu, Abraham, Israël, Yaakov. Ils s'en foutent d'Abraham, Israël, Yaakov.
On s'en fout. Coupez
les micros, ceux qui ne parlent pas.
On s'en fout pas.
Non, mais on descend tous de Abraham, Israël et Jacob.
C'est juste. On descend tous.
Ouais, voilà. Donc, alors que.
En quoi c'est une raison de ne pas leur donner une pierre?
Je ne sais pas. Non, ça, on aurait pu donner une pierre à Moshe aussi.
C'est marqué dans le Sefer Shalshelet. Vous ne l'avez pas lu. Vous ne lisez pas bien le Shalshelet. Ce n'est pas grave. C'est dans Shalshelet qu'il avait posé la kushia. Et dans la Hageshra, il y a tout un mahamar dessus. Hein?
Oui, c'est vrai, mais on ne se rappelle plus.
On ne se rappelle plus, je vois bien. Alors, bon, c'est pas, vous n'êtes pas mes élèves en cheder qu'il faut se rappeler à tout prix. J'ai répondu comme ça, que quand on consulte, quand il y a 2 enfants qui se disputent, 3 enfants qui se disputent, et un, il veut frapper son copain, et il veut frapper son frère. S'il va consulter le père, « Papa, je le frappe, mon frère. » Alors, le papa ne veut pas dire « frappe-le ». C'est « Vous avez embrouillé entre vous, vous débrouillez entre vous. Moi, je ne vais pas donner des ordres que mon fils il frappe votre fils. » Les parents, ils n'aiment pas de se mêler de ça. Ce n'est pas joli. Il faut que les enfants ils fassent leur guerre tout seuls, pas avec les parents. Donc, mais il est ici. On voit les Juifs, ils ont massacré Binyamin. Les Juifs, ils pensaient que Binyamin n'est pas bonne. Alors, donc, c'est comme les frères, ils ont voulu liquider Yosef, maintenant les frères, ils voulaient liquider Binyamin. Alors, on ne consulte pas Abraham et Jacob, ce n'est pas joli de les consulter. Si on fait 3 pierres pour Abraham et Jacob, donc ça veut dire que vous consultez Abraham et Jacob. C'est comme si Abraham et Jacob, il dit, va, il faut massacrer Binyamin. Les parents, nous ne nous faites pas rentrer dans ce balagan. J'ai dit même plus. Les Juifs, ils ont fait la guerre contre des Goïms. Des fois, ils ont fait la guerre contre Midian. Des fois, ils ont fait la guerre contre Edom. Mais Edom, c'est Esav. Esav, c'est le fils de Yitzhak, d'Abraham. Ils ont fait la guerre contre Midian. Midian, c'est un des fils d'Abraham Avinu. Donc, si on consulte les Urim et Thummim, est-ce qu'on fait la guerre contre Midian? Donc, Abraham Avinu, il va leur dire, oui, je vous demande, fais la guerre contre Midian. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire, Midianim, les Arabes? Ils vont dire, quoi, Abraham, mon père, il vous a demandé de me massacrer? Ils vont être fâchés avec Abraham. Mais ça, Hachem n'a pas voulu. La Emouna, que Edom et que Ishmael et Midian, tous ces gens, ils ont, c'est parce qu'ils disent qu'Abraham, mon grand-père Abraham, est un tzaddik, il m'a aimé, je l'aime, je, par son respect, je veux faire quelques mitzvot. Ishmael, il dit, pour respect de mon père, je fais quelques mitzvot. Mais si maintenant Abraham, Israël, Jacob, il se trouve sur l'Avanim Fourash, et les consultations de la guerre, donc c'est qui, Abraham, il dit, massacrer Midian, il va se fâcher, il va abandonner tout. Donc, Hachem, il l'a fait discrètement. Il a mis leur nom sur les lettres, accrochées sur les lettres. C'est qui, Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda, c'est eux qui se sont accaparés dans Israël Yaakov. Mais avant Israël Yaakov, ils ne figurent pas officiellement. Nous, officiellement, on ne se mêle pas si on embrouillade chez les enfants. Donc, à plus forte raison que si entre les Juifs eux-mêmes, il y a une guerre, il ne faut que pas Abraham et Israël Yaakov, ils sont consultés directement. Ça les met mal à l'aise. Avant Israël Yaakov, ils vont dire oui, on est d'accord qu'on massacre Binyamin. Il faut pas demander ça à Israël Yaakov. Il faut que vous débrouillez tout seul. Entre vous, les frères, entre vous, vous faites votre balade. Hein, ça vous dit quelqu'un, cette réponse de Shelchelet? Non, ça vous dit rien. Bon, c'est pas grave.
Alors, j'ai lu ça dans Agesher.
Tu as lu ça dans Agesher?
Ouais, maintenant que vous dites, je me rappelle.
Ça revient. Voilà. En Shoalim Elohim Melech. Et on consulte seulement le roi. Il n'y a que le roi. Mina Hanemile, d'où on sait, Amarabiava ou Damakra, parce que le passage qu'il dit, Damakra, Vilifnei, Elazar, Hakohen, Yahamod, Veshaalo, Bemishpata, Urim. Il faut regarder, c'est Bamidbar, Kav, Zain. Attends, il faut que je regarde le verset. Alors, il est où, Kavzaïn? Alors, ici, vous avez le Chumash. On ouvre le Chumash, Bamidbar Kavzaïn. On va Pasuk Tetvav. On va lire ensemble les versets. Vaidaber Moshe El Hashem Lemor. Dieu, Moshe parle à Dieu. Yifkot Hashem, et le cœur en de Chol Basar, que Dieu nomme un homme. Ishal Haïda, que vous nommez un homme sur la peuple, communauté juive, parce qu'Hachem, il a dit, Moshe, tu es obligé de mourir. Alors Moshe, il a dit, bon, si je dois quitter, il faut que toi, Hachem, tu nommes quelqu'un à ma place. Hachem, il y a Tselifnem qui marche devant pour aller à la guerre, Hachem, il y a qui rentre, Hachem, il y a Tselifnem, Hachem, il y a Tselifnem, Katson, Hachem, il n'aime. Il ne faut pas que la communauté juive est comme un troupeau qui n'a pas de berger. Voyons, Hachem, il Moshe, Kachacha, et Yeshua binun. Tu vois, Yeshua binun, il cherche à voir. Ça marche, et Yatra alaf. Tu mettras la main sur lui, tu vas l'installer, l'ifne El Hazar Akouen. Devant El Hazar Akouen, l'ifne Kolaïda, et devant toute la communauté. Et si vite, autour de l'ENM, tu lui donnes les ordres, tu vas le nommer l'ENM devant le Dieu. C'est-à-dire que Yeshua binun était nommé, il était nommé en présence. Et Elazar à Kohen, devant tous les Chachamim, ça veut dire que le pouvoir de Yeshua Binon, ce n'est pas par un coup d'État, ce n'est pas par une guerre de succession. Il n'y avait pas de guerre de succession après Moshe Rabbeinu. On ne se bagarrait pas qui est le chef. Mais en grand, officiellement, Moshe Rabbeinu met la main sur Yeshua Binon, tu es nommé, et Elazar il est à côté, tous les célèbres ils sont à côté. Et tu mettras de ta beauté sur de sa puissance sur lui, le man Yishmou, afin qu'ils écoutent que la date menée Israël, toute la communauté juive. Et devant Elazar Kohen, il sera debout.
il se mettre debout devant Elazar, Vesha'al lo b'mishpat Urim. Yeshua ben Nun doit consulter le Mishpat Urim, le jugement de Urim, Urim et Tumim, l'Ifnechem devant Dieu, al piv yetzu, sur la bouche, sur l'ordre d'Elazar, c'est-à-dire sur la réponse qu'Elazar il a, lui, sur le Urim et Tumim, al piv, sur sa prononciation, yetzu, il sortira à la guerre, al piv yabou, ou lui, Rechol ben Israël et tous les Juifs, et tout avec lui, Rechol Haïda et toute la communauté. Donc tout était bien organisé, c'est pour ça que ça tournait rond. Mais je veux dire ici, entre guillemets, c'est un kiff quand on lit le Havdil entre le Tamé et le Tahor, entre le vrai et le faux. Le vrai problème, c'est un kiff de voir comment chez les cousins, chez les cousins, quand leur chef, le Navi Ahmed un clown, quand lui il est mort, comment était la succession a été faite? Lisez, c'est phénoménal. Jusqu'à aujourd'hui, il se bagarre pour ça encore. Parce qu'elle était tellement mal faite. C'est la succession, c'est une guerre a tout de suite déchiré. Ils se sont entretués. Mais c'est même pendant la vie, il était bien, c'est aussi, ils se sont entretués, je pense. Après la mort, ils se sont entretués et jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas. Hein, société. Baruch Hashem, comment ça a été? Moshe Rabbeinu, on n'a pas laissé le peuple juif. Bon, mais ça, c'est aucun. On compare Bachal pas du tout ce qui est comparable. Quand il a nommé Yeshua ben Nun, donc ici, il est marqué que Yeshua ben Nun va se mettre devant Elazar HaKohen, il va le consulter, mais Mishpat HaOrim. Et on parle ici aussi, Kol Haïda, le Sanhedrin. Alors, on va lire la Gemara. Alors, on dit, qui est-ce qui consulte le roi? Minan et Milé. Amar Rabbi Avaud, Amar Krav, Elifne, Elazar HaKohen Yamo. Devant Elazar, il se met debout. Qui? Yeshua. Yeshua, c'est comme le roi. C'est le numéro un. C'est le roi. Le chef d'État. Le Sha'alo, il le consulte, Mishpat HaOrim. Ou lui, Zemel, c'est le roi, c'est Yeshua. Bechol ben Israelito. Et tous les Juifs, ils sont avec lui. Zemashuach Milchama. Zemashuach Milchama. Une minute, le Mashuach Milchama. Il demande la question ou il répond? Bechol b'nei Israël ito, ze mashuach milchama. Bechol haïda, zu Sanhedrin. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Hu ze melech, d'abri shuat mishtaikra, bechol b'nei Israël ito, tous les Juifs avec lui, mi shekol b'nei Israël ito, latzet la milchama acharav, celui qui a le pouvoir d'obliger les gens de faire la guerre. Qu'est-ce qu'il est marqué dans la Mishnah? Où est la Mishnah? Où était la Mishnah?
Aïn Aleph, Amoud Bet.
Voilà.
Ve'en Yishalim, elle est le Melech. Ou le Av Bedin, ou le Mish Tzibur Tzarichbo. Comment il parle ici du Mashuach Milchama? Le Mashuach Milchama fait sortir à la guerre. Est-ce que le Mashuach Milchama, c'est ceux qui demandent ou ceux qui répondent? Parce qu'avant, on avait dit Amoud Aleph, Ayin Gimel Amoud Aleph, on a dit Nishalin Itmar. Vous vous rappelez hier, Milchama Nishal Bahem, le Kohen Mashiach a besoin d'avoir les 8 habits quand il est consulté. Le Kohen Mashiach, il est consulté, ce n'est pas le consulteur, c'est le consulté. Alors, Velifne Lazara Kohen Ya'amod, alors comment ça rentre dans le verset? Lifne Elazar HaKohen Ya'amod, qui le roi, Yeshua, Vesha'al lo b'mishpat HaOrim, al piv yetzu, val piv yavou, hu lui c'est Yeshua, Vechol b'nei Israelito, ou tous les Juifs qui sont avec lui, c'est le Av Bedin, ou Misha Tzibur Tzarichbo, quelqu'un que le Tzibour a besoin, c'est-à-dire c'est le Sanhedrin et la Av Bedin. Alors, comment la Gemara parle ici de Mashuach Milchama? Kol Israël Ito, comme Israël Ito, Zé Mashouach Milchama.
C'est Ito Mashouach Milchama.
On dirait ici.
C'est Ito Mashouach Milchama.
C'est le Mashouach Milchama.
Voilà.
Donc c'est le demandeur ou le consulté?
C'est le consulté.
Le roi, c'est ceux qui consultent. Le roi, c'est ceux qui demandent.
Et l'autre, c'est le consulté.
Mais ça ne rentre pas dans la Passouk.
Ben si.
Dans la Passouk, machma que le Ito, c'est quelqu'un qui demande la question au Kohen Gadol. Et sur ça, l'Agma nous dit Mashouach Milchama. Mashouach Milchama demande. Et à Amoud Aleph, on nous dit Mashouach Milchama répond. Il y a un truc ici, je ne sais pas. Il y a un truc ici.